L'histoire de la pelote basque, c'est le titre d'une conférence qu'Evelyne Mourgui a prononcée à Baïgorry en mai 2024 à l'occasion du centenaire du club de pelote Sahar Erchegui. Evelyne Mourgui est docteur en histoire et a rédigé une thèse très intéressante et très fouillée sur la pelote en partant de l'Antiquité. Le jeu, bien sûr, a beaucoup évolué et reste bien vivant aujourd'hui. En témoigne la vitalité de la Sahar Erchegui avec ses 300 licenciés. Evelyne Mourgui va donc nous introduire sur cette si riche histoire de la pelote basque.
Donc je vous remercie d'être venu partager quelques moments d'histoire. Je ne vais pas faire l'histoire des lieux parce que je sais que Emmanuel Inara, qui n'est pas très loin, à Hospitalea, vous a déjà fait une conférence ici, mais il m'a passé ses photos qu'à l'occasion je mets comme ici, donc je le remercie en tout cas de m'avoir passé ces photos. Et je ne vais pas faire l'état de tous les lieux. Déjà, il y en a beaucoup trop, et l'histoire de tous les lieux, encore moins. Mais je vais partager des choses que j'ai trouvées à l'occasion de mes recherches pour la thèse que j'ai faite sur la pelote basque. Donc, c'est beaucoup avec les articles de presse que j'ai pu apprendre des détails sur l'histoire de la pelote. Et c'est aussi en ayant beaucoup d'articles de presse, hein, en fait, et qu'on peut arriver à faire des études statistiques et avoir des évolutions, des tendances, à voir quels sont les jeux joués plutôt à telle époque, quand le schistera arrive, quand on passe de la longue au rebot, plutôt que c'est le rebot le jeu préféré, et puis quand après c'est le tour du bled, c'est-à-dire le jeu qu'on joue le plus actuellement. Hein, le bled, c'est, je ne sais pas si tout le monde sait, c'est juste le jeu contre le mur, hein, comme tout le monde joue contre le mur. Et ça, c'est vraiment un jeu d'invention basque, on va dire, comme le rebot. Alors, un petit point quand même pour dire que la pelote, la balle, c'est un jeu qui est sans doute aussi vieux que l'humanité, et on en trouve des traces absolument partout quand on fait des fouilles archéologiques. Vous voyez ici, on trouve soit les traces de balles elles-mêmes, soit des représentations du jeu avec des figurines, sur des vases ou bien sur des mosaïques. Je vous ai mis quelques exemples. Et puis, je vous ai mis là un jeu parce que, évidemment, comme la balle se joue un peu partout dans le monde, eh bien, notamment, elle se joue dans cet endroit, en Amérique centrale, où il y a un jeu vraiment typique, Ulama, celui-ci, qui se joue encore aujourd'hui. Je ne sais pas si on ne voit plus ma souris. Ici, ce jeu qui se joue donc encore aujourd'hui, et la pelota mixteca qui ressemble plus au jeu de pommes, donc un petit peu au rebot, parce que ça se joue aussi avec des murs. Le jeu, donc, c'est un jeu dont on ne connaît pas trop les règles. Hein, quand on voit, on a quelques auteurs anciens qui parlent des règles, et puis on ne parle plus jamais du jeu, on ne le retrouve plus, et des siècles après, on retrouve ce qu'on appelle le jeu de pommes. Le jeu de pommes, c'est un jeu qui se joue face à face, comme vous voyez, et qui s'appelle chez nous l'Ousséane, l'Oussaran ou la Choane. Pour jouer au jeu de pommes, donc, il y a des choses qui sont importantes. Il y a évidemment la balle ou la pelote, comment est-ce qu'on la fabrique. Et il y a plein de façons de fabriquer une pelote. Et dans les temps anciens, ils n'étaient pas très sympathiques. Des fois, ils mettaient dedans de la chaux, des petits bouts de pierre, des petits bouts de cailloux, n'importe quoi. Mais normalement, c'était de la ficelle. Et puis, on enrobait de drap et d'une deuxième couche de drap. Ici, on met plutôt du cuir. Donc ça, c'est important. La deuxième chose qui est importante, c'est d'engager le poing. Pour engager, on engage ici, vous voyez, on engage sur le toit. Voilà. Et puis, il y a une autre chose, c'est que quand on a les mains fragiles, il faut se protéger la main. Donc, on va mettre un gant, un double gant. On va prendre une raquette, comme ici, au jeu de pommes, on prend une raquette. On va prendre ce qu'on appelle ici des battoirs. Ailleurs, à Madrid, on utilise plutôt des palas, même dans le Pays Basque. Ici, vous voyez qu'on utilise un auvent de boutique, par exemple, pour engager. Là, on utilise ce toit. Et ici, ce sont des jeux qui se pratiquent dans le nord de la France, en Île-de-France et puis également en Basse-Normandie. C'est le jeu de tamis, vous voyez, qu'on fait bondir la pelote sur un tamis. On prend, en fait, chaque région va prendre ce qu'on appelle le jeu de pommes qui se joue partout en Europe, mais avec des noms différents, évidemment, suivant les pays. C'est à peu près les mêmes règles du jeu. C'est arrivé vers le XIIIe siècle, ça. Et chaque région se l'adapte avec le matériau qu'il y a sur place. Et ici, par exemple, il y a un gant qu'on appelle gant casserole, qui est un gant en cuir qui ressemble un petit peu à notre gant de Pachaca ou de Rebaud ou de la Choix. Donc, chaque région pratique le jeu de pommes. Et quand on change de région, quand on voyage, eh bien, on joue tous ensemble au jeu de pommes. Ça s'appelle toujours jeu de pommes, mais ici, dans tous les articles, vous allez voir plus tard, ici, la partie qui est là représentée, c'est une partie sur la place de Cibourg. C'est une partie, sans doute, la Chouane. Donc, vous avez de la chance ici, dans la vallée, parce que vous avez le joueur le plus célèbre de toute l'histoire de la pelote. Alors, je crois que quelqu'un prépare un grand ouvrage là-dessus, enfin, fait un grand travail là-dessus. Donc, c'est Perkain. Perkain, c'est un joueur qui est légendaire, mais on peut dire aussi que c'est un mythe littéraire, parce qu'il a d'abord été connu par des chansons, comme souvent, des chansons qui ont été écrites à propos de ses parties. Perkain était à Sansa, la partie de Saint-Palais, il y a la partie de Tolosha, évidemment. On écrit quand il gagne, on n'écrit pas quand il perd. Des fois, ça lui arrive de perdre, quand même. Mais donc, voilà, c'est d'abord des chansons qui ont été transcrites après au... On a ce manuscrit-là, enfin, le manuscrit possédé par Lacombe, il date du 19e siècle, du milieu du 19e siècle. Mais avant, c'était oral, la tradition. Donc, il y a eu ces chansons, mais il y a aussi, il a été connu, puisque en 1819, il y a un auteur français qui se promène dans toutes les provinces de France, qui décrit ce qu'il voit et qui parle de Perkain. Il en parle au milieu de 5 joueurs. Il y avait 5 joueurs importants, dont Perkain. Et il cite une petite anecdote. Il parle de Perkain qui s'est réfugié pendant la Révolution et qui vient disputer une partie contre un rival aux Aldudes. Et il dit qu'il a obtenu un sauf-conduit pour pouvoir jouer cette partie. Et qu'ensuite, il a gagné cette partie et qu'il a été raccompagné par la foule enthousiaste jusque donc à la frontière. Donc cette histoire a été reprise après en 1826 par Adair dans son résumé de l'histoire et du Pays Basque et du Béarn. Toujours à peu près pareil. Et puis d'autres auteurs encore ont suivi. C'est ça le mythe littéraire. Et il y a un auteur, donc Lavigne, Germain de Lavigne, qui en 1855 commence un petit peu à modifier déjà l'histoire. Vous l'avez là sur l'écran. Donc cette fois-ci, il rentre en Espagne applaudi et protégé. Donc il y a le mot « protégé », donc c'est déjà un petit peu différent. Et quand arrive Pierre Arispe, ben, lui, il en fait un roman, il en fait le drame sous la terreur, et c'est comme ça que maintenant on connaît Perkain. Alors que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la pelote est son mythe, et sa légende. Et c'était adapté, cette œuvre-là de Arispe, pour l'Opéra de Paris, avec donc la musique de Jean Pouet en 1931 et avec les décors de Ramiro Arué que vous voyez à l'écran. Vous avez quelqu'un d'autre qui est très important aussi dans l'histoire de la pelote, c'est Salaberry d'Ibarol, le notaire, qui a écrit un vocabulaire banavaré. Donc, il n'était pas loin d'ici. Et ce qui est important dans ce vocabulaire banavaré, c'est qu'il y a beaucoup de termes du jeu de pommes, qu'il appelle lui-même comme ça, un terme de jeu de pommes, parce qu'à l'époque, on appelle ça partout le jeu de pommes. On appelle ça évidemment pilota ici, en escolas, mais en français, on appelle jeu de pommes. Et donc, il y a des termes qui sont importants, comme ici, araya, vous voyez araya, et vous voyez par exemple chacha. Ça désigne la même chose. Sauf que, pardon, araya, c'est un terme qui vient du mot espagnol, du castillan, raya, qui est la raie. La raie, c'est-à-dire la frontière qui, à la longue ou au rebaud, sépare les deux camps. La différence entre la longue et le rebaud, c'est que les deux camps ils sont égaux à la longue. Et au rebaud, pas du tout. Et chacha, eh bien, c'est un terme qui, évidemment, vient du français, parce que dans la longue pomme, comme dans le rebaud, on dispute des chasses. Et donc, eh bien, les Basques ne sont pas idiots, ils ont compris que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être un chasseur. Et donc, ils n'ont pas traduit avec le mot basque chasse, mais ils ont traduit chacha. Voilà. Et ce terme chacha, on le retrouve aujourd'hui seulement dans chachali. C'est-à-dire, au départ, chachali, c'est celui qui marque les chasses, et de nos jours, et en même temps, il compte les points, bien sûr, mais de nos jours, chachali, c'est seulement celui qui chante les points, qui compte les points. Voilà. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que on dit Lusaran. Lusaran, c'est à la longue. On va dire aussi dans le Lambourg plutôt Lusean. Lusaran. Pourquoi on ne dit pas Lachoan? Ben parce que c'est la traduction ici du français. Voilà. Et qui dit Lachoan? Ben plutôt du côté du Bastan, on va dire Lachoan, parce que ça vient, c'est la traduction du mot castillan pour désigner le jeu. Le jeu, il s'appelle Juego de Pelota en castillan, mais il s'appelle aussi Largo. Et donc Largo, ça se traduit par Lacho. Voilà. Donc d'où les histoires comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Ben, il y a plutôt des termes castillans qui sont restés, notamment la façon de compter, hein, quince et quante, tout ça, ça vient quand même du castillan, et non pas les termes qui étaient issus du français. Vous avez aussi le botarari, donc la pierre, parce que pour engager ici, on se sert d'une pierre, c'est pas un toit, mais c'est une pierre, et puis c'est un butoir. Voilà. Et bota, qui veut dire donc buter. Et chacun, ça va être le terme castillan. Alors ça, la Bérie d'Isbarol, non seulement il a fait un vocabulaire où il parle du jeu de pommes, donc du jeu de pelote, mais il fait aussi beaucoup d'articles. À l'époque, la presse, le courrier de Bayonne, le mémorial des Pyrénées, ont des correspondants comme ça, qui racontent les parties, qui annoncent les parties. C'est comme ça que tout le monde sait qu'il y a telle ou telle partie. C'est comme ça que moi, j'ai pu faire toutes mes études. Donc ici, vous pouvez remarquer, le jeu de pommes est national, dit Salaberry, dit Barol. National, qu'est-ce que ça veut dire? National basque, bon... Il faut dire que les Basques, ça ne les dérange pas de dire qu'ils sont français aussi à l'époque. Il n'y a pas de gêne à ce moment-là. Hein, on est aussi bien un peuple basque et peuple français, ça ne les dérange pas. Ils se sentent à la fois basques et français. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que c'est les Aldudes contre Baïgouri, donc c'est une lutte entre deux villages, hein, une partie entre deux villages, mais qu'on n'hésite pas à faire venir quelqu'un de Asparin. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut toujours équilibrer les parties, parce qu'une partie, c'est un spectacle, et c'est un spectacle où on parie. Il ne va pas y avoir de pari si les équipes ne sont pas à peu près égales. Ça n'a rien à voir avec les championnats d'amateurs d'aujourd'hui. Et il y a toujours beaucoup de spectateurs, même des Espagnols. Et ici, vous voyez qu'il y a un caramillo qui va donner de l'argent parce que quelqu'un a fait de la contrebande et il est solidaire. Voilà. C'est aussi un joueur qu'on verra plus tard. Donc les chansons, il y en a beaucoup hein, sur la pelote. Je ne vais pas toutes les mettre, évidemment. Celle-ci, elle est en basque. Je la mets parce qu'elle est due à un curé des Aldudes et qu'elle concerne une partie qui s'est passée pas loin, hein, à La Mierita. Et c'est une partie des Aldudes contre les gens de l'autre côté. Voilà. Et qui se passe, eh bien, qui se passe en octobre, et qui ne se passe pas un dimanche. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va remarquer. Vous pouvez remarquer, si vous lisez un petit peu là, qu'on donne les noms des joueurs. Souvent, dans les chansons, on donne les noms des joueurs. Ici, il y a Antione, je pense, il y a Michel Selaï, et il doit y avoir H.T. Beritou. Voilà. Et on raconte les exploits, et on parle souvent beaucoup des paris aussi, hein, dans les parties. On était Lachoan, toutes les parties qui étaient là, c'était Lachoan. Vous verrez qu'on a du mal à se débarrasser de ce goût pour la longue pomme ici. Mais quand même, en 1857, pour l'inauguration du fronton de Baïgouri, qui a été construit par les frères d'Abadi, comme celui du Rune, pour les fêtes, on joue au rebot. C'est une tradition, les frères d'Abadi, ils vont toujours laisser le premier jour le dimanche pour la religion, et puis le lundi et le mardi, c'est les parties de pelote. Et il y a toujours une affiche qui est en basque, parce que les Dabadi sont des promoteurs de la langue basque. Et ils exigent toujours que l'affiche soit en basque. Vous voyez qu'ici, c'est Erabotean. Hein, on ne parle pas de jeu de pommes, évidemment. Et vous voyez que c'est encore des équipes, une équipe de l'autre côté, et puis une équipe d'ici, mais... Vous pouvez remarquer que dans l'équipe où il y a le moine de Sarre et deux autres qu'on n'a pas encore donné les noms, on a peut-être pas encore choisi, il y a le Melchior d'Oyarzun qui était le meilleur joueur de l'époque. Et si on l'a mis avec les Français, c'est parce que sinon, ils n'auraient jamais gagné. Voilà. Et donc c'est le 11 août, c'est jamais non plus, c'est pas non plus là un dimanche. Et ce qui est à noter là-dedans aussi pour l'histoire de la pelote, c'est que à partir du moment où les frères d'Abadi organisent des fêtes basques chaque année, chaque année dans des villages différents. Eh bien, il y a des primes offertes aux joueurs. Jusque-là, les parties, c'est des défis. Il y a une équipe ou un joueur qui défie un autre joueur ou d'autres joueurs et ils jouent de l'argent. Et derrière, à côté d'eux, évidemment, il y a des parieurs aussi. Mais les frères d'Abadi, eux, ils offrent des primes. Donc ça change beaucoup. Quand même, dans l'histoire de la pelote, je trouve que c'est pas pareil, un défi. Ou bien les primes sont toujours une forte prime au gagnant, une plus petite prime au perdant, et aussi une prime au meilleur joueur, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est comme ça dans la tradition de ces fêtes basques. Encore une fois, au rebours, je voulais vous mettre cet article parce que, ben, pour une fois, on voit quand même des gens d'ici et à Baïgorry qui jouent donc au rebours. C'est pas si fréquent. Donc en 1860, ce moment-là, entre 50 et 90, on va dire, c'est vraiment le moment de l'apogée du rebours. Hein, on joue énormément au rebours. Mais ici, dans la vallée, quand même, moi, on a une préférence pour autre chose. Mais bon, là, ils jouent. C'est H.T. Beritou qui joue. Et vous voyez que cette fois-ci, c'est un dimanche, mais c'est après vêpres. Et puis, il y a les frères d'Abadi dans le coup. Hein, parce que le rebours, c'est peut-être aussi parce que les frères d'Abadi sont dans le coup avec des primes. Hein, parce que eux, c'est toujours le rebours. Donc, cette fois-ci, c'est encore à Baïgorry, toujours avec d'Abadi, toujours une prime, et donc toujours cette annonce d'une partie de pommes. Alors, souvent on dit, on va dire, à une époque, partie de pommes au rebaud, ou partie de pommes à la longue. Mais là, on est en 61, c'est vrai qu'on ne joue pas souvent des parties à la longue, excepté ici. Donc, bon, c'est une partie de pommes au rebaud. On peut le voir souvent, les parties de pommes rebaud, au nombre de joueurs. Ici, qui est-ce qu'on fait jouer sur la place de Baïgorry? Eh bien, on fait jouer les joueurs de Sarre et les joueurs de Hasparren. Parce que ce sont les meilleurs de l'époque. Et c'est logique, hein, parce que ce rebaud, moi, je pense qu'il est né en Labourd et en Guipuscoa. Voilà. Donc, on fait venir ces joueurs-là. Pourquoi on les fait venir? Mais parce qu'on veut du public. Parce qu'une partie de pelote, pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça rapporte de l'argent à la commune. Voilà. Quand on va dans les archives, on voit que c'est noté. Hein. Et les gens vont venir, il va y avoir une grande affluence. Et donc tous ces gens, ils vont venir et ils vont consommer du vin à l'époque. Voilà, ils vont consommer. Et donc ça va faire des revenus pour toute la commune. Donc c'est une richesse. Il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a des parties de pelote. C'est la fête. La partie de pelote, ça suffit, c'est la fête. Après, on va mettre la fête au milieu, la partie de pelote au milieu de la fête du village. Mais la pelote n'avait pas besoin qu'il y ait la fête du village. Elle se jouait en semaine, n'importe quand, et il y avait du monde. C'était ça, la fête. Et après, on va dire que la pelote, c'est le clou de la fête. C'est ça qu'ils disent dans les articles. Hein. Moi, je ne fais que répéter. En tout cas, il y a toujours du monde qui vient de partout. Et donc... Il y a une petite anecdote ici, parce que Eshkwaldoun fait des dounes. Voilà, donc, même les rédacteurs du Courrier de Bayonne, ici c'est un article du Courrier, ils disent que la veille, les joueurs qui étaient venus ici, ils se sont détournés, ils sont allés prier la Madone à Ailette, réciter la prière du soir. Voilà. C'est amusant. Bon, on revient cette fois-ci aux Aldudes, et on a encore une partie, vous voyez, on dit entre les Français et les Espagnols. Bon, c'est pas très choquant à l'époque de parler des Français et des Espagnols, on ne dit pas Pays Basque Nord, Pays Basque Sud. Il y a encore une foule immense qui vient, et qui vient évidemment de partout. Et d'habitude, évidemment, comme je vous ai dit, il y a Melchior, c'est le meilleur joueur dans les années 50. Donc d'habitude, ben, c'est les Espagnols qui gagnent, partout. À la fin, on ne joue plus contre les Espagnols parce que ça n'a plus aucun intérêt, il n'y a plus de Paris. Mais là, cette fois-ci, ben peut-être que Melchior n'était pas là, ils ne le disent pas. Mais en tout cas, on a joué au rebaud. Et en plus, c'est les gens d'ici qui ont joué, c'est H.T. Beritou. Et malgré son obésité, hein, son gros ventre, il avait les jambes légères. Et c'est lui qui a gagné. Alors que les Espagnols, avec leur chef Caramillo du Bastan, disaient, ben, si H.T.B. veut gagner, il faudra qu'il laisse son ventre à la maison. Eh bien non, les Touros, ils sont rentrés dans la poche des gens de Baïgorry. Mais vous voyez quand même qu'ils ont fait une lutte au rebaud. Et à la suite, ils ont quand même fait une lutte au jeu qu'ils préfèrent, c'est-à-dire à la longue. Voilà, c'est la préférence qui est assumée pour la longue pomme, pas seulement ici, d'ailleurs ici vous étiez canton de Mauléon, et c'était la Soule et la Basse Navarre qui préféraient vraiment jouer à la longue pomme. Et donc vous voyez que là, ils lancent un grand défi en 1863 sur la place de Biarritz, alors qu'en 1863, on ne joue plus qu'au rebot quasiment. Donc vous voyez que la pelote dont on se sert, elle a 180 grammes. Alors à la longue pomme, on joue avec des pelotes qui font au moins 180, 200, 250. Chao disait que ça pouvait aller jusqu'à 500, moi je ne l'ai jamais vu, mais 300, oui. Alors l'enjeu est de 2000 francs. 2000 francs, c'est le gros enjeu des grosses parties de pelotes au rebot, par exemple. Hein. 2000 francs, c'est classique pour une grande partie de rebot. Et c'est ce défi qui a été lancé à la longue à tous les joueurs, hein, du labour, d'Espagne, voilà, ils ne craignent personne à la longue pomme, évidemment. C'est leur jeu préféré, la Choane. Qui n'est pas un jeu... c'est le jeu qui a été adapté au Pays Basque parce qu'il y a des gants de cuir, éventuellement on utilise un mur qui est par là, mais c'est quand même les règles de la longue pomme, hein, donc ce n'est pas un jeu typiquement basque. Le rebot, lui, c'est un jeu qui a été inventé ici par les Basques comme le bled, comme le jeu contre le mur. Et vous voyez qu'il y a quatre manières de jouer en 63, la longue pomme, le rebot, vous connaissez, le trinquet, au trinquet on joue à ce moment-là à Pachaca plutôt, et le trinquet n'est pas très connu. C'est à partir du moment où on va enlever une galerie du jeu de pommes, en fait, parce qu'on joue dans des jeux de pommes en France, des salles de jeux de pommes. C'est quand on enlève une des galeries pour jouer contre le mur, donc au bled, dans le trinquet, et à main nue surtout, que le trinquet va devenir quelque chose d'important. Donc c'est à partir des années 1890-15 plutôt. Et le blé, donc ça s'écrit comme ça, blé, bled, B-L-A-I-D, pléka en basque, voilà. Bon, il y a des petits changements de pratique qui interviennent, parce que dans les fêtes, on fait venir les meilleurs joueurs, mais là, on a décidé de faire venir des joueurs du canton. Et ça se passe à Asparin, ça se passe à Sarre, beaucoup. On dit, mais les jeunes, il faut aussi qu'ils jouent, et qu'ils jouent dans des grandes parties, parce qu'il faut qu'ils apprennent, ces jeunes. Il faut, parce que c'est eux, l'avenir. Donc, il faut les faire jouer. Donc, vous voyez, le canton de Baïgorry, lui aussi, a fait venir. Et vous voyez qu'on joue 5 contre 5. Alors, on n'a pas toujours joué 5 contre 5 au rebot. Hein. À la longue pomme, on joue 2 contre 2, ou 2 contre 3, 3-3, 4-4, très souvent. Au rebot, on a commencé à jouer à 4. Et c'est petit à petit, et surtout dans les années 70, après, qu'on s'est mis à jouer 5 contre 5. Donc voilà, là, c'est 5 contre 5. Et le journal est content parce que, au lieu de donner de l'argent aux joueurs étrangers, on le donne aux gens du pays. Et cette longue pomme, eh ben, elle va se maintenir. Toujours, elle va toujours se maintenir. Enfin, en ce moment, il n'y en a pas trop, elle joue au rebond. Mais peut-être que ça va revenir. Peut-être qu'avec cet exposé, vous allez décider de faire une équipe pour jouer contre le Bastan. Bon, alors... Doucet, elle a bien aimé. Vous voyez ici, je vous ai mis cet article parce que c'est quand même exceptionnel. C'est un jeudi, bien sûr, c'est toujours en semaine. C'est dans les montagnes. Donc on continue à jouer dans les montagnes. Ce n'est pas vrai de dire qu'on a d'abord joué dans les montagnes, les bergers jouaient dans les montagnes, et puis après le jeu, il est descendu dans les villes. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que les bergers, je ne pense pas qu'ils restaient 12 mois là-bas. Et puis de toute façon, le jeu de pommes, il se joue partout en Europe. Donc il se joue dans tous les villages, au pied des châteaux, il se joue dans les montagnes, partout où on peut jouer. Donc les bergers, quand ils sont dans les montagnes, eh bien, ils jouent sur des aires assez plates, bien sûr, avec une pierre si possible pour pouvoir engager. Mais pas que, hein, et on joue aussi dans les villages. Et tout de toujours. Donc là, eh bien, c'est un très jeune joueur, qui est secondé par un autre pas très fort, qui a défié tous les meilleurs joueurs des Aldudes. Et il a lutté contre 10 et il a gagné. Et c'était en novembre en plus. Maintenant, eh ben ici, comme en Soule, je crois qu'on est passé de l'amour de la longue pomme et de l'Océane, on est passé de cet amour à l'amour du jeu contre le mur et au bled. Et on a joué au jeu à main nue, beaucoup. Et donc, là, vous avez un premier exemple avec des joueurs, Berin Dossès et Excelar de Baïgorry, des joueurs qui ont été importants à cette époque-là, qui ont défié tous les autres joueurs, qui jouaient pas seulement ici, jouaient aussi au Trinquet de Bayonne, par exemple, et donc, ou sur la place de l'Ossois. Donc, voilà, ce bled a plu aussi beaucoup, et je crois que les grands joueurs du XXe et du XXIe siècle à Baïgorry ne sont pas rares, à main nue. Et on continue, comme vous le voyez dans l'autre article, on est en 1880. Donc 1880, la longue pomme, elle a été vraiment abandonnée. Le rebaud, 10 ans après, il est abandonné lui aussi. Mais aux Aldudes, on va encore continuer à jouer. Et en plus, on joue pour 4000 francs. Alors là, 4000 francs, c'est une prime, je ne l'ai pas vue souvent, je l'ai vue 2 ou 3 fois dans tous les articles que j'ai lus. 4000 francs, c'était énorme. Et ils jouent, bien sûr, dans les montagnes. On n'a pas délaissé les montagnes pour jouer dans les villages. On continue toujours à jouer partout. On adore jouer dans les montagnes. Moi, je comprends, quand on voit les montagnes, hein, qu'on aime le jeu de pelote. Voilà. Une petite particularité des Aldudes, qui est aussi une particularité à Saint-Palais. Vous avez la même particularité. Vous avez... Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le mur contre lequel on va jouer au rebaud, il s'appelle le rebaud. Et le jeu a pris le nom du mur, en fait. Hein. Rabotéan, c'est qu'on joue contre le mur de rebaud, contre le rabot. Donc, ce mur de rabot, il est construit, il ne faut pas croire, il est construit au XVIIIe siècle, il y a déjà des murs de rabot. Hein. Donc, le rebaud, il date de longtemps aussi. Donc, les murs de rebaud, ils sont construits. Souvent, ils sont construits dans des terrains, souvent dans des terrains privés, d'ailleurs. C'est le cas à Saint-Palais, c'est dans le terrain de Pépi Barbaste. Parce qu'on joue d'abord dans la place du village. Mais dans la place du village, ça dérange beaucoup. Ça dérange les charrettes qui doivent passer, ça dérange les gens dont on casse les fenêtres au passage. Enfin, ça dérange les gens qui veulent passer sur la place et ils ne peuvent pas parce que ça joue à la pelote. Donc, le jeu de pelote, hop, on va le mettre ailleurs, si... On va le mettre sur un terrain. Alors souvent, on le met sur un terrain privé. C'est le cas à Asparin. Il va être sur un terrain privé. À Saint-Palais, il est sur le terrain de Pépi Barbaste, avec un mur construit, un rebaud. Et puis, il y a un monsieur qui achète le terrain qui juste se termine au mur de rebaud. Alors il dit, moi, je voudrais construire ma maison là. Je demande l'autorisation à la mairie de construire ma maison sur... ce mur de rebaud, est-ce que c'est possible d'avoir une mitoyenneté? Alors on lui dit oui, mais attention, le conseil municipal se réunit, attention ici, le jeu de pelote, et c'est pareil aux Aldudes, c'est la même histoire, d'après ce que m'a dit Mickaël, c'est la même histoire, donc le jeu c'est primordial, donc le jeu d'abord, vous faites votre maison, mais pas question d'ouvrir des fenêtres au niveau du jeu, des portes non plus, et si vous faites des fenêtres en haut, d'accord. Mais attention, les volets, ils doivent être à l'intérieur, il ne doit y avoir aucune aspérité, parce que sinon, ça pourrait dévier la pelote. Pas question. Les jours où il y a pelote, évidemment, tout le monde est au courant, et vous, vous fermez vos volets. Ce jour-là, hein, c'est comme ça. Donc, à ces conditions, si vous voulez, vous pouvez faire votre maison. Et c'est comme ça qu'ils construisent la maison. Aux Aldudes, pareil. Et donc là, vous avez la maison en question a été saisie, elle a été récupérée pour l'administration, ici, donc pour la caserne, et ils veulent faire des travaux, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Et toujours en 1891, ça ne marche pas comme ça, ils n'auront pas l'autorisation de faire leurs travaux, parce qu'il y a une servitude, c'est écrit là, à la mairie, et on ne touchera pas au jeu de pelote. Donc c'est quand même très important dans l'histoire du pays, la pelote. Et ici, donc, je vous ai mis juste la date de 1943 que j'ai trouvée dans le cadastre. C'est-à-dire que jusque-là, le fronton, qui est municipal maintenant, c'était une propriété privée également. C'était la propriété des Dabadi. Et en 1943, c'était Pensé-Chipia. Et en 1943, c'est la commune qui le rachète. Ça va être pareil, d'ailleurs, même histoire à Saint-Palais. Ils ont aussi racheté le mur, etc. Et pour vous dire, le XXe siècle n'a pas vu s'arrêter le Lachois. Il y a eu la fameuse partie au plateau de Garcella en 1900, 21, là, qui est racontée dans l'Eshkodouna, que m'a donné Arguia. Mais il y a aussi cette partie à la Miarrieta encore, à 5 km des Aldudes. Il y a, en 1952, celle qui a été faite à l'initiative du maire, et puis pour Eshkol Salehen Bilsara. Et puis, il y a aussi, en 1956, une partie à Garcela. À l'origine, c'était les bergers du Repel qui étaient rentrés d'Amérique, qui ont voulu cette partie. Et je voulais juste vous signaler aussi une petite chose qui est intéressante. Le monument aux morts, ici, il présente un grenadier. Donc, quand il y a un projet comme ça à la commune, c'est largement débattu. Et le projet de Danglade a été choisi parmi d'autres. Et le grenadier qu'il représente, c'est aussi un grenadier dont le geste rappelle le geste du joueur de pelote. Et ce n'est pas par hasard que ça a été pris. Il y a la même chose à Urugne, d'ailleurs. Et sinon, dans d'autres monuments aux morts, on va trouver une pelote, on va trouver un chistera. Ben, pourquoi ? Parce que les Basques, c'était des joueurs de pelote. Voilà. Et je termine, alors, avec Arce, parce que vous avez aussi un très grand joueur. Là, moi, je vous l'ai mis dans des parties où il est tout jeune, hein, 1922. Mais il a participé, c'est des parties tellement mémorables. Et les sons de Copartida, c'est d'ailleurs encore une chanson sur l'air de Lili Batikouchidout, je crois, de Jean-Baptiste Milox. Et ils sont de Copartida, c'est la partie qu'ils ont perdue d'un point, mais qui a fait une chronique extraordinaire, et où quand même le chroniqueur dit « Tous ont été d'accord pour dire que Arce a fait un jeu magnifique, il a dominé le lot. » Et il était face aux frères d'Angaïs, donc c'était pas n'importe qui à l'époque. Et eux, ils étaient jeunes, Léonis et Arce. Et vous avez encore, là, il a lutté contre Mondragones, bon, mais qui était le grand héros de l'époque. Il a perdu, bon, mais 24 ans. Et c'était déjà magnifique d'être là, face à Mondragones. Place à l'histoire de la pelote. À Vaïdori, dans le club.
L'histoire de la pelote basque, vous venez de suivre une conférence d'Evelyne Mourgui prononcée à Baïgorry en mai 2024 à l'occasion du centenaire du club de pelote Shaharer Chegui.